Donc, quand nous avons défini les thématiques, l'une d'entre elles donc s'appelait théorie pratique et nous avions pensé donc l'aborder avec des, je dirais, des points de vue je dirais, d'acteurs différents, mais aussi des points de vue sur cette relation théorie-pratique différents. Sans remonter, je dirais, à un débat trop philosophique ou philosophique, hein, juste pour situer le questionnement de cette table ronde, le débat théorie-pratique se date, je dirais, de l'Antiquité, hein, des philosophes, des discussions entre philosophes, et notamment la pratique, les pratiques sont conçues comme des choix de mode de vie. Alors bien entendu, vous voyez tout de suite l'intérêt de poser cette question en éducation et en formation. Très tôt, nous voyons apparaître une opposition entre l'action, on va dire, et la contemplation, hein, la théorie, entre ce qu'on peut appeler maintenant la pratique et la théorie. Alors, sans faire, bien entendu, un cours d'histoire philosophique, je ne suis pas du tout compétent, on peut voir que la pratique est définie de plusieurs manières. Ce n'est pas toujours une praxis, c'est plutôt un processus, on va dire, global, dans lequel les actions individuelles sont immergées, et processus qui a sa propre dynamique. La pratique peut alors être considérée comme un travail, et dans cette pratique se construit ce qu'on peut nommer une éthique. Alors, c'est dans cette courte introduction que nous allons discuter, hein, dans le domaine, donc, dans le champ des sciences de l'éducation, autour, grosso modo, de trois lignes de fond, hein, qui vont, je dirais, traverser nos débats. Alors, est-ce que, en quoi, ou l'articulation théorie-pratique a été un questionnement développé en sciences de l'éducation? Alors, quand je dis articulation, je veux dire aussi tension. Deuxième ligne de force, des positions différentes ont été posées sur cette articulation dans le champ des pratiques, dans les champs de pratiques éducatives, formatives, professionnelles, mais également dans le champ des recherches en sciences d'éducation. Et troisième ligne, ces positions renvoient à la fois à des enjeux sociaux, à des enjeux scientifiques liés au développement de notre discipline. Après cette courte introduction, je vais donc me permettre de poser un ensemble de questions, hein, à nos invités, qui nous permettra d'avoir un temps de débat à la fin, si le temps nous le permet, mais j'espère qu'on gardera assez de temps pour ce débat avec vous. Alors, pour ces questions, nous allons laisser chacun intervenir une dizaine de minutes, hein, pour répondre. D'abord, donc, une série de trois questions. Donc, vous avez vu, nous avons préparé cette table ronde. Donc, trois questions. D'abord, est-ce que le débat théorie-pratique est spécifique aux sciences de l'éducation? Est-ce qu'on peut relier ça aux sciences SHS, etc. Et s'il est spécifique, en quoi? Ce débat renvoie à la conception des recherches en sciences de l'éducation. Quelle finalité aujourd'hui pour ces recherches? Et troisième question, quel est le rôle du chercheur en sciences de l'éducation? Quelle éthique développe-t-il? Voilà les trois premières questions que je pose donc d'abord à Patricia.
Ah non, je réponds à toutes les trois.
Tu fais comme tu veux.
Parce que je pensais répondre une par une.
Tu peux faire ça.
Ok. Bon,
je donne
petit ajustement de
une
dernière minute. Moi, j'ai compris qu'on prenait question par question. Je voulais dire tout d'abord que c'est très émouvant pour moi de me retrouver ici à l'occasion des 50 ans de notre discipline. Et au vu des multiples publications, des communications dans les colloques et congrès antérieurs qui portent sur ces questions, je n'imagine pas dire aujourd'hui quelque chose de très original, mais plutôt apporter mon point de vue avec le petit recul que me confère mon expérience et que me confère aussi ce que nous avons pu faire au sein de l'AECSE, et la manière dont je peux considérer que notre domaine scientifique évolue. Je dis Je ne dis pas champ, je ne dis pas discipline, bon, c'est un petit peu pour m'amuser, je dis domaine pour faire un petit clin d'œil à la culture viticole et en espérant que d'ici nos 60 ans, nous allions vers l'élaboration de très grands crus. Alors, est-ce que le débat théorie-pratique est spécifique aux sciences de l'éducation ? Je crois en tout cas que dans ces termes et ce qu'ils désignent sont sans cesse interpellés dans leur interrelation et ils sont très présents dans les différents types de discours sur l'éducation et la formation. Et notre rôle, c'est sans doute, chercheurs en sciences de l'éducation, de tenter de comprendre pourquoi ils sont très présents et de manière récurrente. Il me semble que ces termes sont finalement largement issus du champ scolaire, d'une représentation inhérente aux questions que posent l'usage et l'utilité des acquis de la scolarité dans le champ de la vie sociale, ou encore des rapports que la société entretient avec ce que produit le champ scolaire ou les pratiques de formation. Et relativement à ces rapports, il y a quelque chose de l'expression d'une insatisfaction permanente quand est fustigé l'écart théorie-pratique. Si on va voir dans le dictionnaire courant, on trouve immédiatement cet exemple, il y a loin de la théorie à la pratique. C'est donc la tension et l'éloignement qui d'emblée apparaissent, une sorte de disjonction, une sorte d'incompatibilité. Et il me semble que cet écart-là, il est, et j'y reviendrai peut-être dans le débat social, il est un petit peu du même ordre que celui entre formation et emploi, auquel je m'intéresse, ou que celui entre travail prescrit et travail réel. Donc il y a quelque chose d'irréductible, de nécessairement là. Les théories s'efforcent de proposer une lecture du réel, ou plutôt d'expérience, mais ils nous échappent, ce réel et cette expérience, ils nous résistent. De fait, en partie insaisissable, là où on croit l'avoir trouvé, l'expérience est déjà ailleurs et différente. Elle s'esquive. Il y a un problème de temporalité et donc d'ajustement au système théorique qu'il étudie. Alors, cette tension, elle se traduit comment ? C'est le discours de l'apprenant qui dit « La formation, les enseignements qu'on me propose sont en décalage, sont inadaptés. Je ne sais pas quoi en faire, je ne saurais pas quoi en faire. » C'est celui de l'adulte en formation qui signale l'écart entre ce que lui propose la formation et la réalité de l'expérience quotidienne. C'est trop théorique, ça veut dire quelque part c'est inadapté, ça ne répond pas aux besoins. Je n'en saisis pas le sens parce que je n'en saisis pas l'usage, l'utilité, l'apport. Ces problèmes-là ont alimenté la réflexion sur le développement du champ de la formation des adultes. Souvenons-nous du propos de Bertrand Schwartz dans un article de 1989, un article d'éducation permanente, où il exprime cette idée qui a été beaucoup reprise. Un adulte n'est prêt à se former que s'il y trouve une réponse à ses problèmes dans sa situation. Tout ça nous dit que, en s'intéressant ici à l'adulte, que le rapport aux situations, aux activités, traverse toujours notre rapport à la formation ou à l'éducation, qu'il est premier. La préoccupation de ce que le langage courant est premier, primordial, c'est l'ancrage dans les situations qui détermine le rapport aux connaissances produites. Alors maintenant, est-ce l'affaire des sciences de l'éducation ? Je dirais oui, comme toutes les questions, et notamment les questions récurrentes qui agitent le champ des pratiques éducatives, ou plus généralement des pratiques sociales concernées par l'éducation, il l'est à ce titre, puisqu'il questionne l'utilité des enseignements, de la formation, l'analyse des besoins, le rapport au savoir. Alors oui, en cela, moi je dirais que c'est spécifique en sciences de l'éducation, parce que ce sont véritablement les questions que nous avons à construire ou à déconstruire. Alors si on se penche maintenant du côté des sciences de l'éducation, en tant que productrice de savoir scientifique, j'ai fait un petit clin d'œil au colloque de Toulouse qui s'est récemment déroulé, entre logique d'action et logique de production de connaissances, eh bien là, ma réponse serait plutôt non. Pour moi, ce n'est pas spécifiquement l'affaire des sciences de l'éducation, parce que l'articulation entre les logiques d'action et les logiques de production de connaissances, eh bien, elles sont présentes pratiquement dans tous les champs de scientifiques. Dans tous les champs scientifiques, ces deux logiques s'interpellent l'une et l'autre continuellement. Alors évidemment, on pourrait en dire beaucoup plus en essayant de faire des comparaisons avec d'autres disciplines scientifiques notamment peut-être les disciplines qui sont plus proches de nous, les disciplines au pluriel, les sciences de gestion, les sciences de l'information, de la communication. Mais en tout cas, l'expression d'attente sociale à l'égard de la recherche est quasi généralisable. Et donc, elle ne nous concerne pas seulement nous. Ça, pour moi, c'est vraiment ma conviction. Alors, si on se demande toutefois s'il y a quelque chose qui spécifierait les sciences de l'éducation dans ce rapport à théorie pratique, à la manière d'appréhender théorie pratique, là, je dirais, on appelle ça une réponse de Normand quand on dit, quand on dit bon oui endroit. Et non. Voilà. Car si on revient au terme et à cet effet de contagion depuis l'univers scolaire à propos de l'utilité et de la légitimité sociale des savoirs enseignés, alors oui, je vais dire, nous sommes particulièrement et toujours interpellés par cette préoccupation parce qu'elle affleure continuellement du champ des pratiques éducatives et de formation. Et donc oui, là, elle nous interpelle sans doute beaucoup plus que d'autres champs scientifiques. Voilà ce que je pourrais dire pour la première question, oui. Si je peux me permettre de m'arrêter là.
Pour la première, oui. Tu gardes les autres questions
Où je continue.
Comme tu veux. Oui.
Chaque question.
Comme vous voulez. Moi, j'avais prévu le paganisme.
C'est bien.
Ça vous arrange?
Je suis de réponse globale.
Oui, parce que bon.
Je vais répondre globalement. Donc, il faut qu'elle réponde.
Alors, je continue. Désolée. Ouais, alors, la deuxième question, c'est quelle conception des sciences de l'éducation, les finalités aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est la question pourquoi et pour qui travaillons-nous? Pour qui produisons-nous des savoirs? À qui enseignons-nous? À quoi sont utiles nos travaux et nos enseignements? Et les finalités de notre discipline, donc, c'est donc de nous intéresser à des pratiques, à des acteurs, à des dispositifs, à des politiques en lien avec l'éducation. Comme l'écrivait Guy Avanzini en 2008 dans un numéro de recherche éducation, les sciences de l'éducation sont des sciences de l'objectif. Elles étudient des pratiques finalisées. Ils parlent d'un objectif fonctionnaliste et non du désir gratuit et esthétique d'accroître le savoir. Bernard Charlot, qui a déjà été cité tout à l'heure, dans le même numéro, exprime le fait que les sciences de l'éducation se définissent par l'attention portée aux recherches d'autres disciplines et par un certain rapport aux pratiques et politiques dans le champ de l'éducation. Il ajoute que le chercheur en éducation ne peut pas se désintéresser, se délier des questions des finalités, donc aussi des politiques et des questions des pratiques. Et il ajoute encore que le chercheur en sciences de l'éducation se préoccupe de ce qu'on va faire de ses résultats. Alors, ce qui m'intéresserait, et peut-être le plus, c'est pour l'avenir, c'est qu'on se penche un petit peu sur le comment on peut s'intéresser à ce qu'on va faire de nos résultats. Parce que c'est une question à laquelle nous n'avons peut-être pas assez répondu. Qu'est-ce qu'il advient de nos enseignements, nourris de nos recherches? Qu'est-ce qu'il advient de nos publications? Qu'est-ce qu'il advient des rapports adressés à nos commanditaires? Des démarches spécifiques comme les séances de restitution que nous faisons aux acteurs des champs de pratique concernés? Quels sont véritablement les échos de nos travaux dans les médias? Finalement, que produisent, je vais mettre des guillemets, nos résultats? C'est sans doute un chantier qui serait intéressant pour la suite. Je reviens sur ce qu'a lu Cédric Frétinier tout à l'heure par rapport au communiqué de l'AECSE. C'est quand même un énorme paradoxe que d'être dans un champ scientifique où souvent nous regrettons, et c'est quelquefois tout à fait objectivement vérifiable, nous regrettons de ne pas être assez connus, d'être méconnus, de ne pas voir nos résultats suffisamment, utilisés, mobilisés, notamment par les politiques. Et puis de constater que nous sommes aussi violemment interpellés par rapport aux effets de ce que nous faisons, comme si finalement il y avait des effets énormes par rapport à ce que nous produisons. Donc il me semble que ça pourrait être un champ de réflexion et de recherche pour la suite, parce que moi en tout cas, quand j'essaie de répondre à cette question-là, qu'est-ce que ça produit ce que nous faisons, je ne sais pas trop. je ne sais pas trop comment, comment y répondre. Est-ce que j'en compte ?
Encore le temps pour un troisième, ça va.
J'en suis encore à la deuxième, en fait. Et ce qui m'intéresserait par rapport à cette question-là, c'est aussi de considérer, par rapport aux finalités de notre discipline, de considérer ce qui change. Parce que pour moi, les finalités restent sans doute les mêmes, mais par contre, le contexte de production du savoir scientifique au regard des objectifs que nous pouvons avoir, lui, change. Et je pense qu'il change au moins sur deux registres, en tout cas trois registres que j'ai identifiés. J'irai assez vite, mais je les évoquerai un tout petit peu. Le rapport à la demande et à la commande sociale de production de connaissances sur l'éducation et la formation, l'évolution des thèses et des recherches en général, et donc de la population que nous constituons, nous, enseignants-chercheurs, et puis le développement assez sensible de travaux sur le registre de l'analyse de l'activité, des savoirs issus de l'expérience, des pratiques. Et je vais insister un petit peu sur le rapport à la demande sociale. Je dirais simplement que pour moi, il est resserré, puisque nous assistons à une augmentation des recherches en réponse à des commandes, en vue de réaliser des recherches de terrain, parce que nous avons besoin de disposer de moyens pour le faire. Et c'est sans doute lié en partie à l'expression des besoins des champs professionnels, qui connaissent davantage les ressources que nous leur proposons pour mener des travaux, mais aussi au fait que les moyens financiers manquent, que ceux donnés par l'État sont trop peu importants, et donc nous allons chercher des moyens pour travailler ailleurs. Le deuxième point d'évolution qui me semble sensible, c'est l'évolution des conditions de réalisation des thèses et des recherches, mais surtout des thèses. Je ferai volonté l'hypothèse que regarder de près les thèses que nous produisons, c'est voir ce que nous devenons, en fait. C'est voir comment nous évoluons. Il y a des collègues qui ont depuis longtemps essayé d'étudier la production des thèses, Jackie Bayrault, Véronique Leclerc, une commission au sein de la ECSE, les thèses, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, les thèses, ce sont nos jeunes pieds de vigne. Et en fait, actuellement, il y a une génération de doctorants et une génération de thèses qui sont des thèses qui se font, par exemple, dans le cadre de contrats CIFRE, qui bénéficient de contrats de recherche régionaux. Il y a aussi des post-doctorats qui sont rémunérés sur des projets ANR ou d'autres types de projets. Et donc, finalement, une population d'enseignants-chercheurs, dont certains sont présents ici dans la salle, pour la plupart, donc, développent dès leur formation universitaire initiale en sciences de l'éducation une proximité avec les champs de pratique professionnels. Des champs de pratique qui sont peut-être plus nombreux et plus divers que ceux qui étaient qui constituaient l'ancrage de la première génération, donc qui ouvrent la discipline sur d'autres univers et qui accroissent sa reconnaissance et sa connaissance sociale. Les premières générations, dont je fais partie, nous étions souvent des professionnels d'un champ qui venait ensuite à la recherche, qui venait ensuite aux sciences de l'éducation pour y développer une thèse et puis des travaux. Donc si on regarde, c'est un petit peu caricatural, mais ces deux types de populations, on voit bien qu'il y a un lien avec les champs professionnels, avec les champs de pratique, mais la construction du travail doctoral ne se fait pas de la même manière par rapport à ces champs de pratique. C'est-à-dire que beaucoup des premiers chercheurs en sciences de l'éducation ont construit leur recherche sur la base du champ dans lequel ils étaient déjà impliqués. Alors que ces jeunes chercheurs nouveaux, là, pour un certain nombre d'entre eux, ils sortent du cursus universitaire et ils interagissent avec un champ de pratique sur la base d'une commande, d'un financement, d'une suggestion finalement qui vient de la société civile. Donc, ça, il me semble que ça implique un processus de formation et de professionnalisation qui est différent au regard de cette tension entre logique d'action et logique de connaissance, de cette tension entre théorie et pratique. et je ne développerai pas sur le troisième point parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long.
Tu rebondiras après.
Je n'ai pas fait le troisième.
Okay. Bon, d'abord, je dois dire que je suis très heureuse d'être ici, entre vous, entre mes chers collègues à la table. Et je remercie beaucoup cette invitation. Bon, la première question. Le débat théorie pratique est-il spécifique aux sciences d'éducation? Et si oui, en quoi? Bon, oui, dans le sens où il s'agit d'un débat essentiel, spécial et intrinsique aux sciences d'éducation. Non, dans le sens qu'il est exclusif à ces sciences. Patricia a déjà dit la différenciation entre les apports qui sont trouvés à ce sujet. Bon, chacune des disciplines qui forment ce domaine des sciences d'éducation a d'autre part des points de vue particuliers par rapport à ce débat. C'est la sociologie, c'est la philosophie, c'est l'histoire, l'économie de l'éducation. Mais le débat de la théorie pratique se constitue comme un élément de différenciation interne aux sciences de l'éducation, mais en même temps, il participe à la construction de leur identité et de leur unité. Il y a un point de vue fondamental à chacune des disciplines constitutives des sciences d'éducation. Il s'agit de l'interaction entre les sujets et l'objet de la connaissance dans le contexte de la pratique socio-historique de l'éducation et leur contradiction dans la société de classe. Les controverses impliquées dans ce débat exigent une reprise des discussions sur les divisions entre le travail manuel et travail intellectuel, la division des systèmes d'enseignement, de la connaissance, des disciplines scolaires et de la formation et leurs implications sur la reproduction des inégalités sociales. Ce débat contribue au repositionnement et à l'actualisation des thèses sur les différenciations pédagogiques, la constitution des parcours scolaires diversifiés, les possibilités et les limites à l'égalité d'accès, des chances et des résultats scolaires, les manières de traiter les rythmes scolaires des élèves et de moduler l'emploi du temps scolaire. Il peut également contribuer à ouvrir d'espace au développement et à la rénovation des sciences de l'éducation. En particulier, pour ce qui se réfère à la signification de la barre de séparation ou les traits d'union entre les termes théorie et pratique. Aussi, ce qui se réfère aux différentes positions sur l'articulation entre eux sur la pratique pédagogique en éducation et en formation et à la rénovation des paradigmes éducatifs et formatifs face aux tensions et aux contradictions inhérentes à cette problématique. Bon, la deuxième question. Ce débat renvoie à la conception de recherche en sciences d'éducation. Quelle finalité aujourd'hui? D'abord, il est important que les sciences de l'éducation comprennent que chacune de ces réalités sociales, que ce soit la théorie ou la pratique, a ses particularités de telle sorte qu'elles ne se confondent pas ni s'annulent. Parmi les objets d'études qui se constituent en finalité de ces recherches, on distingue les suivants. 1. L'appauvrissement de l'éducation de la formation provenant de la dichotomie entre la théorie et la pratique. 2. L'utilisation de ces contrastes entre la théorie et la pratique en corrélation avec d'hypothétiques différences de genre d'intelligence, d'aptitude, des expériences culturelles, des motivations individuelles et des nécessités psychopédagogiques pour rendre naturelles les barrières de l'éducation et de la formation. 3. La segmentation, l'hiérarchisation et la distribution d'étudiants par des structures et institutions scolaires. Des différentes orientations curriculaires et de formation, des processus pédagogiques et de gestion de l'éducation. 4. La référence à la concurrence et à la déphasage entre la théorie et la pratique pour mise en jour du procès de Durkheim, qui considère que l'éducation ne peut être égalitaire car elle est subordonnée à la diversité morale des professions. 5. Les forces motrices qui interfèrent dans la réalisation de l'activité cognitive des étudiants et dans leur développement intellectuel. 6. La persistance de la pratique du formalisme, c'est-à-dire la rupture entre la forme et le contenu et la mémorisation mécanique. 7. Les aptitudes des élèves par rapport à l'étude et au défi de l'appropriation des concepts. 8. La conception de l'apprentissage en tant qu'activité, le caractère actif que celui-ci doit avoir et les conditions qui interfèrent dans les résultats obtenus par les étudiants. 9. Les similitudes et les différences de diverses formes de manifestation de l'activité cognitive. 10. Les différences entre la différence et les relations entre les concepts empiriques et les concepts théoriques. 11. Les voies inductives et déductives de la formation des concepts chez les étudiants. 12. La portée des connaissances théoriques avec l'inclusion en leur sein de celles qui sont relatives aux méthodes et procédures. 13. Les processus d'enseignement-apprentissage par les va-et-vient de l'alternance. 14. Comment amener les étudiants à leur activité intellectuelle maximale et produire des résultats qualitativement supérieurs. 15. Les défis de la relation dialectique entre la théorie et la pratique dans la formation des enseignants et des formateurs. 16. Les répercussions de la dualité entre la théorie et la pratique dans la division des sciences, des différences de prestige entre disciplines scolaires et la construction des programmes scolaires. 17. Les médiations de la relation entre la théorie et la pratique dans les expériences alternatives et innovatrices d'éducation et de formation. La troisième question. À cet effet, quel rôle les chercheurs en sciences d'éducation assument? Quelle éthique? D'abord, il est impératif que les chercheurs de sciences d'éducation ne se comportent pas comme un individu isolé, mais comme membre d'une communauté scientifique formée par des chercheurs de différents domaines. Ainsi, sa capacité de s'insérer dans un dialogue interdisciplinaire est très importante. Dans ce sens, il incombe aux chercheurs des sciences d'éducation de connaître les aspects du débat théorie-pratique dans son développement historique et dans le contexte des situations concrètes de travail éducatif et formatif. Identifier les besoins d'études en tenant compte de ce que les sciences de l'éducation ont déjà produit à ce sujet et l'état actuel des propositions pour la pratique pédagogique. Observer les contextes et les situations dans lesquelles la problématique théorie-pratique pose des demandes de recherche. Unir la production de connaissances avec les efforts de transformation sociale. Enrichir la connaissance sur l'éducation et la formation. Faire des recommandations de recherche sur des problèmes dont les connaissances sont encore insuffisantes ou inexistantes. Lancer des propositions fondées sur des généralisations issues de l'analyse des expériences pratiques. Les critères pour le jugement éthique du chercheur de sciences d'éducation ne se trouvent pas dans des concepts idéalisés, mais dans la vie concrète. Il s'agit de l'éthique, de l'intérêt de l'émancipation humaine, de la recherche de la détermination autonome de l'être, du développement de la conscience et de la sensibilité, de l'extension du domaine conscient des individus sur les moyens, de l'appropriation par les individus des conditions nécessaires à leur objectivation. Il est fondamental que le chercheur des sciences de l'éducation assume la position active concernant la défense de l'intégralité de l'éducation et de la formation. L'unité entre la pensée et la réalisation, la réflexion et l'action, la science et le travail. Merci.
Merci, Pierre. Jean-Marie.
Merci. Alors, je vais commencer, comme annoncé tout à l'heure, par un petit pas de côté. Je vais évoquer la situation dans laquelle nous faisons tous de la formation à la recherche et on rend sensibles les étudiants aux influences, aux rapports respectifs entre cadre de questionnement et cadre de réponse. Et donc, je me suis demandé si c'était possible de poser le problème du paradigme théorie-pratique dans d'autres termes que ceux dans lesquels il se dit lui-même. Et donc, c'est pour ça que j'ai éprouvé le besoin de faire. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi t'as accepté de participer à cette table ronde? Quel enjeu social, scientifique, professionnel, ça correspond? Alors, j'ai eu deux réponses qui vont vous expliquer un petit peu la structure de ce que je vais dire. La première, c'est j'ai une énorme interrogation, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je ne suis pas le seul, sur les effets de connaissance. Est-ce que la distinction théorie-pratique a jamais produit une connaissance? Je pense que non, bien sûr. Elle produit d'autres effets, des effets d'organisation, enfin tout ce que vous voulez. Premièrement. Deuxièmement, phénomène tout aussi important, Pourtant, les uns et les autres, nous continuons dans nos discours quotidiens, dans nos conversations ordinaires, c'est pas seulement quand on a le pouvoir, ou ceux qui ont le pouvoir, on continue d'utiliser des trucs, des phrases, dans lesquelles on retrouve cette dichotomie, on va l'appeler comme ça, provisoirement. Donc je me suis dit qu'il y avait deux tâches à réaliser, donc je vais essayer de faire la première... dans la première partie, puis la deuxième, je m'excuse pour cette indiscipline notoire.
Non, mais c'était prévu.
Bon, oui, prévenu. Et donc, la première des choses, mais c'est indirectement, je pense que je répondrai quand même à une partie des questions posées. La première, c'est ne faut-il pas se poser d'abord la question du statut de l'émergence sociale et donc de la fonction de la dichotomie théorie-pratique. Dans quel contexte ça apparaît et dans quel contexte ça disparaît? Qu'est-ce que c'est que la... Quel est le statut de cette distinction? Est-ce que la théorie et la pratique, ça existe en dehors de l'acte de connaissance? Est-ce que c'est des entités du monde qu'on pourrait connaître? Ben non, bien sûr que non. La dichotomie théorie comme pratique sont des constructions discursives, c'est des énoncés, c'est des qualifications. Et donc, d'abord, je vais prendre un exemple. Alors, quand ils s'opposent, hein, parce que, par exemple, s'il fallait opposer théorie et empirie, je dirais autre chose, mais quand on oppose... théorie et pratique, je fais l'hypothèse que dans les deux cas, c'est des énoncés. Parce que ce que nous appelons la pratique, c'est le discours que nous voulons bien avoir sur notre propre activité. Regardez l'analyse des pratiques, toutes ces situations dans lesquelles on dit c'est la pratique. C'est le discours que moi, sous-entendu praticien, je tiens sur ma propre activité. Et quant à la théorie... Il faut distinguer, elle a plusieurs sens, mais quand on le fait dans l'opposition théorie-pratique, c'est un discours organisateur, prescripteur quelquefois de l'activité. La preuve, Lucilla a dit tout à l'heure, il y a du décalage entre la pratique et la théorie. À ce moment-là, la théorie devient un référent. Donc ça me paraît un point tout à fait important, c'est de se dire, bon, peut-être que ce qu'on a la théorie et la pratique, c'est des qualifications, peut-être que c'est des énoncés, et si c'est le cas, alors ça vaut la peine de se poser la question des contextes dans lesquels ça apparaît. Quand est-ce qu'on éprouve le besoin de parler de théorie et de parler de pratique? Alors je vais faire une hypothèse de réponse qui est la suivante, c'est que chaque fois qu'il y a un enjeu de détermination des positions des acteurs dans l'engagement de leurs interactivités, à ce moment-là, on voit apparaître la distinction, la dichotomie théorie-pratique. Je vais donner quelques exemples. La distinction entre profession et métier, elle est investie. Hein, on met les professions quand même plutôt... Hein. Y a pas que ça. Quand vous regardez les fiches de poste, les piges de fonction, on fait ça aussi, nous, hein, dans notre métier. Il y a, concevoir pour les uns et mettre en œuvre pour les autres. Donc, tout se passe comme si, cette distinction servait à déterminer des positions, hein, dans les engagements d'acteurs. Alors, je pourrais prendre... d'autres cas, hein, initiative, management, direction, coopération, etc. Et donc, cette distinction, c'est terrible, c'est parce qu'on la retrouve aussi bien dans le langage savant que dans le langage ordinaire. Mais quand il est dans le langage savant, c'est pour l'action de recherche. C'est pas pour le contenu de la recherche, c'est pour la conduite de l'action de recherche. Troisième petit point, en fait, cette dichotomie, elle est cohérente avec beaucoup d'autres distinctions qui structurent notre pensée occidentale.
la dichotomie sujet-objet, c'est aussi, à bien y réfléchir, vraisemblablement un empêchement de penser. Je crois qu'on a le droit de parler de théorie et de pratique pour désigner, dans le travail empirique, parce que les gens, quand ils construisent des sens et des significations autour de leurs actes, s'en servent. Mais on ne peut pas utiliser, c'est la proposition que je vous fais, la distinction théorie-pratique pour analyser ni pour interpréter. OK pour identifier, parce que naturellement, on construit des sens autour de nos actes. Mais pour interpréter, il y a comme un problème. Quatrième point, au fond, ça sert quand même quelque chose qui est bien connu par tout le monde, c'est la fameuse dichotomie, trilogie, discours, pensée, action, très grec, ça ne marche pas comme ça forcément ailleurs. Et évidemment qu'il y a dessous une espèce d'hypothèse de causalité, c'est-à-dire il y a un primat du discours sur la pensée et de la pensée sur l'action. Ceux qui pensent comme ça, et sont nombreux, ne comprennent rien au rôle des émotions dans l'action. Donc à l'engagement des acteurs dans les actions. Alors, pire que ça, parce que moi j'ai dirigé quand même pas mal de thèses qui avaient pour but, parce que des adultes, qui avaient pour but de donner au savoir professionnel un statut qui ressemblant au savoir théorique. C'est-à-dire que j'ai eu du mal à faire comprendre aux personnes que ça n'était pas des savoirs, mais que c'était des cultures. Mm-hmm. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les praticiens qui veulent promouvoir la pratique le font avec les oripeaux de la théorie. Ils reprennent exactement les attributs sociaux de la théorie. Et donc, vous voyez où je veux en venir, ils s'enferment par là même dans ce dont ils veulent se débarrasser. Alors, j'en viens à la question des sciences de l'éducation et de l'éducation, puisque c'est quand même notre préoccupation. Alors, moi, je voudrais dire trois choses. C'est que cette dichotomie, elle n'est pas propre à notre champ. Elle structure toute... nos cultures d'action, nos cultures de pensée. Simplement, il se trouve que dans l'éducation et dans les sciences de l'éducation, d'une certaine façon, on est davantage concerné, mais on l'est concerné trois fois. La première fois, la culture dominante de l'éducation, ça reste encore la culture de l'enseignement. Et c'est dans la culture de l'enseignement qu'on va voir apparaître des mots aussi structurants que « savoir » et « connaissance ». Mais qui ne sont jamais que des expressions de cette culture de pensée, qui est théorie, savoir. C'est frappant. Je ne vais pas être long, mais regardez quand les disciplines des sciences sportives, etc., ont voulu rehausser la discipline, il a fallu faire des savoirs et des connaissances. Mm-hmm. Donc, l'éducation est un lieu d'explicitation et de formalisation de cette dichotomie. Elle est aussi un lieu de transmission en acte de cette dichotomie, c'est-à-dire par l'exercice même, c'est pas seulement le discours, par l'exercice même de la fonction d'enseignement, on transmet en acte cette dichotomie. Mais par contre... Et en recherche, et en particulier dans l'analyse... Alors, je fais de la pub pour mon orientation, mais je pense que c'est un peu vrai quand même. Quand on fait de l'analyse de l'activité, et en particulier quand on fait de l'épistémologie de sa propre recherche, à ce moment-là, on est obligé de mettre en objet tout cela. Et on est obligé de mettre en objet les rapports entre action et action, pensée et émotion, par exemple... Et que donc, du coup, l'éducation qui est tellement transmettrice de la distinction théorie-pratique peut être aussi le lieu où elle peut être mise en objet.
Merci à vous trois. Donc je vais reprendre pour une série de questions, mais qui sont tout à fait liées aux précédentes. Donc c'est pour ça que vous pouvez développer sur les points que vous n'avez pas pu développer dans la première partie. Les fonctions sociales, c'était ça, ma deuxième partie. Mais voilà. Donc, quelle place du sujet en éducation-formation dans ce débat théorie-pratique ? Comment définir les tensions qui se cristallisent autour de ce débat ? Et enfin, comment dépasser ce débat ? Qu'est-ce qui se joue scientifiquement ? Et là, on va faire le chemin inverse. On va commencer par Jean-Marie. Oui,
peut-être qu'ils répondront plus directement aux questions que tu poses.
Oui, certainement.
Je vais essayer de rester disciplinée. Alors, pour la première question, la place du sujet, moi, j'ai choisi de l'aborder à partir de nos pratiques de recherche en sciences de l'éducation. Et en me disant que ben, nous sommes un champ scientifique où les praticiens sont toujours là, sont ou presque toujours là, sont toujours présents avec nous, je dis exprès avec nous, dans nos recherches. Et qu'en fait, nous leur donnons presque toujours aussi la parole, c'est-à-dire que c'est sur la base de la parole de ceux qui sont dans la pratique, de ceux qui vivent l'expérience, que nous construisons nos matériaux de recherche. Donc j'essayais de réfléchir à ça et de me dire quelle est leur place finalement dans nos travaux et comment la place que nous leur donnons, enfin dans le travail scientifique, peut nous permettre d'évoluer sur cette question des tensions entre théorie et pratique et entre logique d'action et logique de production scientifique. Et donc c'est l'idée d'accorder peut-être une importance encore plus accrue que celle que nous leur accordons à ceux qui nous relient par la recherche au champ de pratique professionnelle. Et pour ça, j'aime bien cette expression qui a été utilisée notamment par Yves Schwartz, par Yves Clos, de communauté scientifique élargie, au sens de désigner une communauté scientifique où ces praticiens font partie vraiment intégrante du processus de travail scientifique. Et pour faire vivre cette communauté scientifique élargie et contribuer à l'enrichissement de nos pratiques scientifiques, il me semble, et c'est une des façons d'aborder la chose, je ne m'arrêterai que sur celle-là, qu'il faut être attentif à des médiations possibles entre les champs de pratique et les champs de recherche, et peut-être, et sans doute, identifier des personnes clés dans l'articulation entre pratique et recherche, qu'on peut appeler des médiateurs, je reprends des termes, je dirais qui ensuite a développé tout ça, des médiateurs, le troisième homme, des go-between, enfin des personnes qui font du lien entre nos deux communautés. Dès 1971, Henri Mandras pointait le caractère indispensable d'une structure, voire d'une fonction d'interface, notamment en cas de recherche commanditée, pour éviter les risques d'un partenariat qui se situerait uniquement sur le mode de la dualité recherche-terrain, en ayant recours à un troisième terme, en fait un dispositif d'interface. Il appelait ça un bureau de recherche, et donc afin que se permette une chaîne de rôles et d'institutions entre le chercheur fondamentaliste, le décideur et l'exécutant, pour échapper à une structure de négociation trop dualisée. Et à partir de cela, il appelait un intermédiaire dénommé le troisième homme, un homme de l'organisation, une femme, évidemment, de l'organisation, proche du décideur, qui connaît son langage, ses mobiles, ses objectifs, et qui, d'autre part, est homme de sciences sociales, qui en connaît le jargon, qui sait parler avec les chercheurs et lire leurs travaux. Je pense que tous, dans nos expériences, ou probablement tous, nous avons déjà eu affaire, de manière plus ou moins formalisée, à ce type de personnes. Un autre chercheur, Martin, attirait lui aussi en 87 l'attention sur la nécessité d'une interface entre chercheurs et praticiens, entre chercheurs et commanditaires, il disait que la crise actuelle des sciences sociales était liée partiellement à l'insuffisance de ces fonctions de relais. Et donc, fonctions qui seraient susceptibles de garantir un plus juste équilibre entre la recherche orientée et la recherche libre. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, cette perspective de continuer à travailler sur un travail scientifique pour lequel cette co-élaboration des savoirs entre praticiens et chercheurs eh bien, serait davantage étudié, davantage construit, et un travail scientifique où on pourrait même parler d'un processus de professionnalisation spécifique à tous ceux qui feraient office de go-between entre les deux univers pour construire, continuer de construire ce qu'on peut appeler la communauté scientifique élargie. Donc, pour moi, c'est une voie de, peut-être une voie de progrès pour dépasser nos fameuses tensions entre ce que produit la recherche et ce que ceux qui l'utilisent ou qui l'entendent ou qui ne l'entendent pas eh bien, peuvent en faire. Voilà. Donc, ça, c'était pour la première question. La deuxième, c'est des tensions autour de cette dichotomie. Alors, là aussi, j'ai choisi d'aborder ça sous un angle un petit peu particulier, en me disant que ces tensions, eh bien, on pouvait là aussi les analyser avec ces recherches que nous menons pour la plupart et qui sont des recherches en éducation, sur la base d'une commande ou en tout cas d'un rapport très étroit à un collectif de praticiens qui en attendent des résultats. Et dans ce cas de figure, dans lequel nous sommes le plus souvent, nous sommes finalement confrontés à un double système de contraintes. Nous sommes confrontés à la contrainte du milieu scientifique et à la contrainte du milieu des praticiens, éventuellement d'un milieu commanditaire. Et notre recherche idéale, ce serait sans doute celle qui pourrait aboutir à une double pertinence dans son utilisation sociale et dans son utilisation scientifique. Et pour aller plus loin dans la réflexion là-dessus, je m'étais efforcée d'analyser les types de... J'avais appelé ça la commande, parce que je travaillais à ce moment-là sur plutôt les commandes de recherche, mais on pourrait l'élargir à la prise en compte de la demande sociale par rapport à la production de connaissances, de savoirs scientifiques. Et j'avais vu, en fait, quatre types de commandes, de rapport à la demande sociale. Un premier type qui serait le rapport à la commande de normalisation, c'est-à-dire que la recherche est souvent attendue comme l'instrument d'une normalisation scientifiquement cautionnée. C'est en quelque sorte la caution des bonnes pratiques. On cherche à cautionner la mise en évidence de bonnes pratiques. Et c'est en cela que donc la recherche en éducation ou d'autres recherches sont sollicitées. On aurait un deuxième type de rapport à ces attentes sociales, à cette commande, qui serait un rapport de simplification, c'est-à-dire qu'on attendrait de nous, on attendrait de la recherche, eh bien que nous mettions en évidence des certitudes, que nous faisions taire les doutes et les interrogations des praticiens et que nous leur donnions des réponses. Ce n'est pas toujours le cas, on sait bien qu'on leur amène plutôt de la complexification que de la simplification. Mais il y a cette attente de simplification qui est très forte. Il y a une autre attente, commande, qui est une commande, une attente d'interpellation, c'est-à-dire que il y a l'étude des rôles respectifs de la recherche et de la revendication dans la connaissance des besoins sociaux, et la détermination de la politique sociale montre qu'il est rare qu'une institution, un groupe ou une société soit prête à remettre en question ce qui va de soi. C'est pourtant un des présupposés de la recherche que de vouloir remettre quelque chose en cause, mais de quel degré et à quel niveau de remise en cause, et quelque part les résultats de nos travaux peuvent dépasser les limites des remises en cause imaginées par les praticiens sur le terrain et les déranger de ce point de vue-là. Et puis il y a la commande et l'attente de légitimité scientifique. Donc le commanditaire ou nos partenaires de manière générale sur le terrain font appel à une expertise qu'ils ne peuvent produire, celle de la recherche, convoquée pour donner un certain nombre de projets, de positions, de décisions, une caution considérée par certains comme quasi absolue parce qu'elle est celle de la science. Donc il y a la demande d'une assurance, du renforcement attendu d'une position, pas nécessairement facile à tenir et à défendre par les praticiens. Voilà, donc je pense que c'est autour de, enfin, comment dire, autour de ces différents rapports que nous pouvons avoir à ce qu'on attend de nous sur le terrain, qu'on peut aussi continuer de réfléchir à ce qui fait tension entre nous, chercheurs, et entre praticiens, du point de vue de l'utilisation et de l'utilité perçue de nos recherches en éducation. Et puis, il y a la tension.
Attends, la dernière question, c'est comment dépasser ?
Comment dépasser ?
C'est le débat.
Je suis perdue.
Tu as répondu dedans.
Oui, sinon, oui, mais je serai assez rapide sur cette dernière question. Moi, j'ai envie de dire, tant que cette espèce de plainte, de problème s'exprime, parce que on a peut-être envie que ça ne se dise plus ou que ça se dise autrement, mais pour le moment, ça se dit comme ça. Tant qu'on entend cette plainte autour de l'attention théorie-pratique, ça nous rappelle que c'est une question importante. Donc c'est une incitation à ne pas oublier quelque chose de fondamental. Ce qui constituerait sans doute un progrès, c'est que, ça a déjà été dit, c'est que les termes changent parce qu'ils ne désignent que de manière floue et réductive le problème posé. Et c'est sans doute bien à nous, à la recherche et aux chercheurs, de s'efforcer à conduire à cela, c'est-à-dire que les termes changent et qu'ils soient moins réducteurs, que cette simplification, on aille au-delà. Donc c'est de notre responsabilité d'initier aussi les professionnels du champ éducatif à une démarche de questionnement des mots qu'ils utilisent. Ça constitue normalement un passage obligé dans un travail de recherche. Il y a d'autres mots comme ça qui traversent nos travaux, notre champ, et les champs de pratique. Le mot compétence, par exemple, pose même, je crois, le même type de problème. Donc notre responsabilité de chercheur est en jeu, mais aussi et aussi d'enseignant. Parce que finalement, ce que je me disais pour terminer, quand je réfléchissais à tout ça, à toutes ces questions que tu nous avais posées, c'est ça revient à une question que j'ai posée tout au départ. Quels sont les résultats finalement de nos pratiques d'enseignement en tant que chercheurs, pratiques d'enseignement nourries par nos travaux de recherche? Nous travaillons, je pense, ces tensions avec nos étudiants, avec à tous les niveaux d'enseignement, avec nos doctorants. Est-ce que nous réussissons à faire progresser, à faire changer quelque chose dans leur tête, dans leur pratique, dans leur pratique éventuelle? Et quand je me pose moi cette question-là, j'en sais rien en fait. Et je me dis, mais ce serait de beaux travaux de recherche que se demander si les personnes qui ont suivi nos enseignements en sciences de l'éducation ressortent, entre guillemets, plus aptes à se poser autrement ces questions, sans en négliger la persistance, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Peut-être que je ne connais pas les travaux qui ont porté sur ce sujet. S'il y en a, je serais ravie de les connaître. Mais en tout cas, je pense que ça pourrait être fabuleusement intéressant de savoir ce que nous produisons sur tous ces praticiens qui suivent nos enseignements et en quoi nous parvenons à faire évoluer ces désignations simplificatrices et ce qu'il y a derrière. Et comme la désignation, là, elle reste, j'ai tendance à penser, bien qu'étant de naturel optimiste, que peut-être nous ne réussissons pas pour le moment à faire avancer les choses.
Merci.
Bon, la question 4, quelle est la place du sujet en éducation, formation, dans ce débat, quelle fonction sociale? Bon, il est important de discuter des lieux et des fonctions sociales des deux sujets. Celui qui est formé ou éduqué, il est formateur ou l'éducateur. Dans les deux cas, le critère fondamental est le motif ou l'objet selon le concept de Leontiev dans sa théorie de l'activité. C'est le motif ou l'objet qui distingue l'activité de chacun. Il est lié et les fonctions respectives par rapport à l'éducation et la formation. Ce ne sont pas des lieux d'individus isolés, mais des personnes qui s'associent en se faisant les unes et les autres dans une relation dialectique. Ce sont également des lieux historiquement et culturellement situés qui doivent être construits par les personnes qui les habitent. Il n'est pas logique de discuter séparément le rôle de chacun. Comme l'a souligné Vygotsky, un aspect décisif de ces processus concerne la formation de la pensée théorique par les étudiants, ce qui présuppose, d'après lui, les rapports de connaissances spontanées aux concepts scientifiques. À la suite des fondements théoriques offerts par Vygotsky et Leontiev, Galperin a développé une théorie sur la formation d'action mentale par étapes. Pour ce faire, il part des hypothèses suivantes. La première, il faut tenir compte des possibilités prospectives de l'étudiant en plus de constater ce qu'il est capable de faire. La deuxième, il faut expliquer les forces motrices de ces processus en plus d'indiquer la trajectoire du développement intellectuel de l'étudiant. La théorie de la formation des actions mentales par étapes de Galperin cherche à comprendre la transformation d'une action externe, matérielle, en interne, mentale. Il a établi 5 étapes pour la formation d'action mentale, mais sans qu'elles soient comprises comme des moments isolés. La première étape, la motivationnelle, a pour but de faire en sorte que l'étudiant sente la nécessité de se mettre en action d'investigation. Ensemble, l'éducateur ou les formateurs et les étudiants passent à la deuxième étape qui a pour fonction de construire un schéma ou une base de guide d'action. Il cherche à définir des éléments du système de conditions nécessaires à la réalisation de l'action proposée. La troisième étape implique la formation d'action sur le plan matériel ou matérialisé. L'éducateur formateur a pour fonction d'intégrer le monde des choses concrètes et des actions dans les processus d'enseignement-apprentissage. Cela se fait par la mise à la disposition des étudiants d'un instrument physique et symbolique comme médiateur capable d'ancrer leur relation à l'objet de la connaissance. La quatrième étape correspond à la formation de l'action en tant que langage externe. Les étudiants ont pour tâche d'expliquer à haute voix ou d'écrire le déroulement des opérations adoptées et exécutées. Telle manifestation offre la possibilité à l'éducateur formateur d'intervenir et de mener de ses orientations et ses corrections. Enfin, la phase de formation de l'action comme langage interne, une fonction qui appartient antérieurement à l'étudiant. Il s'agit de l'intériorisation des points de la réalité externe qui permettent d'articuler la logique de la connaissance, de la pratique, avec la logique du savoir comme discours. Permet de transférer les connaissances produites d'autres situations, d'aller au-delà des limites d'une situation donnée pour voir la même activité dans le contexte historique et social plus large et de trouver des moyens qui dépassent les possibilités déjà données. C'est un exemple que j'ai cherché de penser la situation des fonctions de l'éducateur et des élèves. Bon, la question 5. Comment définir les tensions qui se cristallisent autour de cette dichotomie? Ces tensions découlent des contradictions sociales inhérentes à la division sociale du travail et à la gestion hétéronome des processus de travail. La praxis éducative et formative n'est pas séparée du développement réel de la société. Par conséquent, elle n'échappe pas à cette division, même s'il est possible de réduire les impacts négatifs qui lui sont causés. Cela contraste avec la tendance actuelle du développement interdépendant de la science et de la technologie. Il en résulte l'augmentation des exigences de qualification du travailleur. Ces tensions concernent les processus de connaissance vécus par les étudiants. Entre les nouvelles connaissances qu'ils doivent assimiler et celles qu'ils apportent à partir de leur expérience historique et culturelle antérieure et de leur vie quotidienne. Et aussi, les tensions entre leur soif de connaissances et les autres motifs extérieurs liés à la concurrence sur le marché du travail, où ce qui importe, ce sont des notes du bulletin scolaire et d'autres attributs personnalistes. Il y a aussi des tensions découlantes des difficultés rencontrées par les étudiants pour répondre aux exigences de l'apprentissage entre les niveaux de contenu des programmes scolaires et les possibilités d'assimilation, entre les connaissances théoriques et la capacité de les appliquer dans la pratique, entre les explications des enseignants et de les comprendre, entre les propres sujets impliqués dans les processus de formation, entre les tâches assignées aux étudiants pendant les processus d'enseignement-apprentissage et le niveau réel de leur connaissance, de leur capacité et de leur habileté, entre les difficultés des étudiants et leur possibilité de connaître et de surmonter ces difficultés. Un autre aspect à considérer est la tension découlante de la situation posée à l'étudiant quant à savoir qui devrait gérer la séparation entre la théorie et la pratique. Il souffre les conséquences immédiates de cette tension car elle provoque un manque de confiance et d'anxiété, autant plus que les exigences de performance personnelle sont élevées. Mais les tensions autour de la dichotomie théorie-pratique peuvent également se constituer en force motrice du processus éducatif, dans la mesure où elles sont appropriées par les étudiants et les enseignants et converties en raison pour promouvoir la motivation pour l'étude et la recherche. Ces expériences varient selon la discipline des programmes scolaires, l'âge des élèves, leurs particularités individuelles et le niveau de connaissances déjà atteint de façon personnelle et collective, entre autres conditions et situations. Mais le défi majeur consiste à surmonter les contraintes de cette dichotomie promue par les relations sociales aliénées qui favorisent l'appropriation privée de la science et de la technologie et la séparation entre de l'école, du monde du travail, de la production et de la science. Il ne faut pas oublier que l'économie de marché a provoqué un énorme gaspillage de connaissances, de savoir et de créativité, que les problèmes du chômage atteint de plus en plus un nombre croissant de personnes qualifiées, que les travailleurs ont été transformés en simples entrants de processus productifs. En conséquence, ces tensions envahissent les sciences de l'éducation en considérant que l'éducation et la formation sont des domaines en litige et de confrontation des attentes. que les éducateurs et les formateurs vivent des dilemmes pour lesquels ils ne trouvent pas toujours des réponses. Les tensions entre les discours et les demandes actuelles en matière d'éducation et de formation, les demandes pour des innovations et d'apprentissage plus collectif et collaboratif et par des interactions au-delà des communautés internes aux écoles. Les sciences de l'éducation sont confrontées à la réalité de ces fragilités théoriques. Elles sont appelées à trouver des solutions. Elles sont confrontées aux tensions qui sont produites entre les connaissances théoriques et celles de la pratique pédagogique, entre la pratique et la réflexion sur la pratique, entre l'activité académique et le militantisme politique. Il y a aussi des demandes d'anticipation de l'avenir face au rythme toujours plus rapide du changement global et des sociétés. Mais, d'autre côté, il y a ce qui se passe effectivement dans l'expérience quotidienne et locale des éducateurs, des formateurs et des étudiants, et le sens que les événements vécus suscitent en eux. Par conséquent, les tensions de la dichotomie théorie-pratique dans les domaines des sciences d'éducation couvrent un large spectre allant des objets d'étude comme produire la science, des modèles prescriptifs au travail réel et alternatif de l'éducation et de la formation. Et comment de passer?
On arrête là, on reviendra peut-être pour laisser c'est Jean-Marie. Okay. Il nous reste 10 bon. Minutes. Voilà, c'est pour ça.
Ok. Bon, je reste.
Il faut garder.
Il faut garder.
Ça pourra être bref. J'ai annoncé deux tâches hein, par rapport à cette dichotomie théorie-pratique. L'une qui est donc d'analyser la fonction sociale de cette dichotomie. Et d'une certaine façon, j'ai répondu en vous proposant de considérer que c'est d'abord une fonction d'organisation et de légitimation, et pas autre chose. Alors, une fois qu'on a fait ça, par quoi remplacer? Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut explorer d'autres paradigmes pour aborder la question qui nous intéresse, aussi bien en tant qu'éducateur qu'en tant que citoyen? C'est la question des transformations des activités, sans cesse en transformation, paraît-il, et de la conduite des activités et des habitudes d'activité. Je vais proposer une autre hypothèse qui est que vous avez senti venir tout à l'heure. Auparavant, je voudrais quand même dire toute la distance que nous pourrions tirer de ce que j'ai dit précédemment, si vous en étiez d'accord, par rapport à ce qu'on appelle la recherche appliquée, ou ce que l'on appelle les savoirs qui éclairent les pratiques. Enfin, franchement, une croyance d'humeur. On dit, de toute façon, ça va éclairer la pratique. Simplement, on ne sait pas du tout comment ça éclaire. Hein. Et c'est vraiment une croyance. Et ça pose une question qui est quand même hyper intéressante, c'est le rapport entre le monde des savoirs et des valeurs et le monde réel. C'est aussi une question politique. Quand on parle des valeurs démocratiques ou du socialisme appliqué ou pas appliqué, hein, pour prendre, c'est qu'on fait l'hypothèse que c'est l'idéologie qu'on applique dans la politique. Ça mérite, c'est le moins qu'on puisse dire, d'être interrogé. Alors comment peut-on faire quand on a quand même des savoirs, des résultats de recherche, etc.? Moi, je fais l'hypothèse que, les savoirs n'ont pas, en fait, tout ce qui est produit de cet ordre-là, n'a pas d'incidence directe sur l'action, mais elle a des incidences sur les transformations de sens, les constructions de sens dont les sujets accompagnent leurs actions. C'est un petit peu comme dans la psychanalyse. C'est-à-dire, vous n'obtenez pas le changement correspondant à ce qui a été dit. Simplement, le changement, ce qui a été dit vous permet de construire d'autres sens.
et d'autres contresens, pour faire un petit jeu de mots. Pourquoi c'est important ? Ben parce que la notion de sens, elle a quand même un aspect extrêmement important, c'est que c'est à la fois du mental, c'est aussi du mental, mais c'est aussi des affects ou des émotions. Les émotions, c'est jamais que des reconstructions de sens autour d'affects qui se sont transformés. Et donc là, je réponds un petit peu à ta question sur le sujet. C'est-à-dire que c'est bien du sujet qu'il s'agit, mais ça passe par la médiation des émotions et des émotions qui sont particulières parce que ça va engager, il faut avoir envie de transformer sa pratique, donc s'engager dans une action de transformation de sa propre pratique. C'est du boulot. Ça se pense aussi, des fois on le fait sans penser, hein. Mais dans un certain nombre, il y a souvent même, on change sans le penser. Les actions ne sont pas forcément des actions conscientes, mais quand même, elles sont ordonnées autour de la transformation des pratiques. Et donc, on a quand même une voie hyper intéressante pour l'éducation, et pas seulement pour l'éducation. Alors, s'engager dans des actions de transformation de ses propres activités, ça suppose à la fois, je ne vais pas trop détailler ça, à la fois des représentations du souhaitable, moi j'appelle ça des représentations finalisantes qui vous donnent envie de faire, et des représentations de l'existant, hein, c'est-à-dire ce que j'ai constaté qui me fait bouger. Alors, c'est le jeu des représentations finalisantes et des représentations finalisées qui n'agit pas directement sur l'action, mais sur la conduite des actions. Excusez-moi d'insister sur ce point, mais c'est drôlement important. C'est, nous n'avons pas nous-mêmes accès à nos transformations effectives. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas nos transformations. Il y en a certains qui ont parlé de transformations silencieuses, muettes, tout ce que vous voulez. Nous ne connaissons pas les transformations que nous connaissons. Mais ce à quoi nous avons accès, c'est à la conduite de nos transformations. C'est un autre espace d'activité important. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, dans l'analyse des pratiques, qui n'est pas au sens scientifique, mais comme outil de professionnalisation ? On travaille, en réalité, seulement sur la conduite de nos actions de transformation et pas sur les transformations elles-mêmes. Mais c'est ça qui est valorisé socialement. C'est-à-dire tenir un discours. Nous sommes quand même dans un système de pensée où tout ce qui arrive au sujet, c'est quand même... Il n'y a rien de mieux que d'être le responsable de ses propres actes. Hein. Toutes les cultures ne fonctionnent pas comme ça. Et donc... Dans l'analyse des pratiques, dans la professionnalisation, ce qui va être, valorisé, c'est la conduite. Et j'essaie de répondre à la question que je pose. C'est, je crois, pour cette raison qu'il y a une persistance sociale importante de la dichotomie. C'est parce que nous n'accédons jamais qu'aux conduites. Et je ne vous ai pas dit au tout début le titre que je vais donner à mon intervention, mais je peux le dire à la fin, c'est pour en finir avec la dichotomie théorie-pratique. Bon, c'est un jeu, évidemment. Le problème, c'est de trouver, comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure, d'autres voies pour rendre compte de nos transformations effectives et de la conduite que nous avons de nos transformations.
Merci Jean-Marie. Alors je ne sais pas si on a le temps pour une ou deux questions.
Effectivement, je pense que dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui regrettent de ne pas avoir plus de temps pour leurs interventions et leurs questions. Enfin, merci de me le permettre. J'ai vécu cette dichotomie entre la théorie et la pratique de l'enseignement deux fois dans ma vie, une fois comme élève et une fois comme professeur. Et la question que je voudrais vous poser concerne vous quatre, en fait, et les trois questions que vous avez posées. Premier choc, quand j'étais élève, a été double. celui des mathématiques modernes quand je suis arrivé en seconde, où c'était un choc extrêmement violent pour moi. Avant, j'avais confiance en moi en mathématiques, après, j'avais plus du tout confiance en moi. La remédiation qui avait suivi a été faite en classe terminale par un professeur qui a gentiment, calmement et tranquillement accordé, plutôt relié pour nous, la théorie ensembliste et les mathématiques classiques que l'on enseignait avant. En physique, deuxième choc en même temps que mathématiques. En seconde, je détestais la mécanique parce qu'on nous apprenait les forces sur des objets qui ne bougeaient pas, ce qui pour moi était un non-sens logique. Et en terminale, un autre professeur de physique nous apprenait la mécanique de Newton, où là, je me suis réconcilié avec les forces. Ça, c'est mon vécu en tant qu'élève. En tant que professeur, j'ai eu également un choc. J'ai été formé dans les années 1987-88 en ENNA, École nationale normale d'apprentissage, pour devenir professeur de collège d'enseignement technique ou de lycée professionnel. Et on nous avait appris des sciences de l'éducation à l'époque pour nous former, que j'ai mis en pratique parce que j'avais beaucoup confiance en elles en lycée professionnel l'année suivante. Et ça a été un choc négatif très fort. J'en avais pris plein les dents, pour être un petit peu vulgaire. Et si je n'ai pas abandonné le métier, ce que j'ai failli faire, c'est parce que des élèves qui étaient mal en point dans mes classes ont osé m'interpeller et me demander quelque chose. « Monsieur, comment a-t-on su que les atomes sont convoludites avec un noyau, des électrons autour, des couches d'électrons, etc. ?» Cette question a été la bifurcation de ma carrière. Et alors, voilà, comment situez-vous dans les propos que je viens d'entendre, ce vécu donc, sur le terrain et en pratique. Voilà, ce qui me manque, c'est la relation entre le concret que j'ai vécu et puis ce que j'ai entendu là à l'instant. Merci.
Qui souhaite apporter des éléments?
Bon, moi, je veux bien répondre.
Les motifs.
Oui, je veux bien répondre. Quand on dit sur le terrain, c'est toujours là où on est. Hein. On est bien d'accord. C'est le terrain des uns n'est pas le terrain des autres. Et donc, faire des liens entre deux espaces de connaissances, c'est encore faire des liens. C'est pas forcément faire des liens entre théorie et pratique. Ce qui, a des effets sur la manière dont vivons les choses sur le plan du vécu, c'est notre capacité à faire des liens. Lorsque nous sommes capables et nous sommes dans le monde des constructions de sens, et pas forcément l'activité au sens strict, mais ça nous apporte, c'est vrai des romans aussi, c'est-à-dire lorsqu'on est capable de remettre ensemble des constructions de sens dans des domaines très différents, alors nous avons une joie, un plaisir très fort et surtout une image identitaire très forte. C'est pas pour autant que ça a été un lien entre théorie et pratique.
Nous pourrons poursuivre cette discussion, bien entendu. Merci beaucoup pour votre participation.